Chapitre 3e. Raoul intervient. Toute la matinée, dans le paisible Vésinet, ce ne furent qu'allées et venues, apparitions de gendarmes, d'inspecteurs en civil et d'agents en uniforme, ronflements de moteurs, embouteillages, galopades des reporters et des photographes. On s'interpellait. Les bruits les plus insolites et les plus contradictoires circulaient. Le seul endroit calme était le jardin et la maison des Clématites. Là, consigne inflexible, nul n'entrait qui ne fût de la police. Pas de curieux, pas de journaliste. On parlait à voix basse par respect pour la morte et pour le chagrin de Rolande. Lorsqu'on apprit à celle-ci l'agression dont Jérôme Elmas avait été victime, elle éclata en sanglots. « Ma pauvre sœur, ma pauvre Élisabeth !» Elle donna l'ordre qu'il fût soigné dans une clinique proche. La même clinique recueillit l'autre blessé. Le cadavre de Barthélemy, qui avait étranglé la jeune fille, reposait dans le garage en attendant qu'on le transportât dans la chambre mortuaire du cimetière. Vers 11 heures, M. Rousselin, juge d'instruction, assis près du procureur de la République dans un confortable fauteuil de jardin, luttait contre le sommeil tout en écoutant les explications que l'inspecteur principal Gousseau détaillait avec complaisance sur le quadruple drame du Vésinet. M. Rousselin était un petit homme, tout en ventre et en cuisses, dont les digestions étaient parfois, et pour cause, assez lourdes. Juge d'instruction en province depuis 15 ans, nonchalant, dénué d'ambition, il avait tout fait pour ne pas quitter un pays où sa passion pour la pêche à la ligne le retenait. Par malheur, la récente affaire du château d'Orsac, où il fit preuve de tant de finesse et de clairvoyance, avait attiré l'attention sur M. Rousselin et lui avait valu, à son grand regret, d'être nommé à Paris. Son veston d'alpaga noir et son pantalon de toile grise tire-bouchonné dénotaient sa parfaite insouciance en matière d'habillement. Malgré les apparences, c'était un homme subtil et d'esprit distingué, fort indépendant dans ses actes, souvent même un peu fantaisiste. Et l'inspecteur principal Gousseau, qui avait plus de réputation que de mérite vrai, concluait d'une voix qui réveilla M. Rousselin. En résumé, Mademoiselle Gavrel a été attaquée au moment où elle se baissait pour prendre la chaîne qui tenait la barque, et cette attaque fut si violente que les 3 marches de bois qui descendent dans l'eau ont été rompues. Il faut noter en effet que Mademoiselle Gavrel a été mouillée jusqu'au-dessus de la ceinture. Aussitôt après, lutte sur la berge, vol du collier de perles et fuite de l'assassin, lequel avait également les 2 jambes mouillées. Sur cet assassin qui a été examiné par les docteurs, et que l'on a étendu dans le garage, où vous pouvez le voir, aucun renseignement, sauf ce nom de Barthélemy. Visage, habillement sont ceux d'un vagabond. Il a tué pour voler. Nous n'en savons pas davantage. L'inspecteur principal Gousseau respira et reprit, avec la satisfaction d'un homme qui s'exprime sans chercher ses mots, « Les 2 autres, maintenant. » M. Jérôme Elmas a, d'un coup de fusil, abattu l'assassin qui, sans cela, aurait sans doute réussi à s'enfuir. Voilà le seul point que nous puissions préciser. Quant au reste, les déclarations qu'il m'a faites sur son lit de souffrance et malgré son épuisement sont tout à fait vagues. D'abord, il ne connaissait pas l'assassin de sa fiancée. Et ensuite, il n'a pas reconnu non plus son agresseur nocturne et il ne sait pas la raison pour laquelle il a été attaqué. Et d'autre part, nous n'avons aucun indice sur l'identité du second blessé et aucun sur les conditions de l'assaut qu'il a subi. Tout au plus, devons-nous supposer que dans les 2 cas, l'agresseur est le même. Quelqu'un interrompit le policier. Ne pouvons-nous pas tout aussi bien supposer, monsieur l'inspecteur principal, qu'il y a eu cette nuit non pas drame entre 3 hommes, c'est-à-dire un agresseur et 2 victimes, mais drame entre 2 hommes seulement, monsieur Jérôme Elmas ayant été assailli par un individu qui, blessé par monsieur Elmas, a pu se traîner durant 300 ou 400 mètres, jusqu'à l'endroit où il est tombé cette nuit. On avait écouté, non sans intérêt, la très saisissante hypothèse du monsieur qui venait de l'exposer. Mais ce monsieur, on le regardait avec surprise. Qui était-il? On s'était bien rendu compte qu'il sortait de la maison des Clématites et qu'il avait écouté les conclusions de l'inspecteur Gousseau. Mais de quel droit, cette intrusion? L'inspecteur principal, irrité que l'on substituât une hypothèse à la sienne, demanda « Qui donc êtes-vous, monsieur ?»« Raoul d'Averny. Ma propriété se trouve non loin d'ici, en face du Grand Lac. Absent de Paris depuis quelques semaines et revenant ce matin, j'ai appris ce qui s'était passé ici par un jeune architecte qui habite chez moi, où il travaille à la décoration de ma villa. Félicien Charles était un ami de ces demoiselles Gavrel et déjeunait hier avec elles. Il y a une heure, je l'ai accompagné jusqu'auprès de mademoiselle Rolande et je n'ai pas cru indiscret d'errer un moment dans le jardin et d'écouter vos remarquables déductions, monsieur l'inspecteur principal. Elle révèle un maître de l'enquête. Raoul d'Averny avait un sourire ineffable et un certain air narquois qu'eussent donné à tout autre qu'à l'inspecteur principal Gousseau la sensation d'être tourné en ridicule. Mais l'inspecteur Gousseau était trop gonflé de son importance et assuré de ses talents pour éprouver une telle impression. Flatté du compliment final, il s'inclina et se contenta de remettre à sa place le sympathique amateur. « C'est une supposition que je n'ai pas manqué de faire, monsieur, » dit-il en souriant. Je l'ai même soumise à monsieur Elmas, qui m'a répondu « Avec quelle arme aurais-je frappé? Je n'en avais pas. Non, je me suis défendu comme j'ai pu. » À coups de pied et à coups de poing. D'un coup de poing la figure, m'a dit M. Elmas. J'ai mis mon adversaire en fuite alors que j'étais déjà blessé. Réponse catégorique, n'est-ce pas, monsieur? Or, j'ai examiné le second blessé. Il ne porte aucune trace de coup, ni sur la figure, ni ailleurs. Donc, à son tour, Raoul d'Averny s'inclina. Parfaitement raisonné, dit-il. Mais le juge d'instruction, M. Rousselin, à qui le personnage plaisait, lui demanda. « Vous n'avez pas d'autres observations à nous communiquer, monsieur ?»« Oh, pas grand-chose. Je craindrais d'abuser. »« Parlez, parlez, je vous en prie. »« Nous sommes en face d'une affaire qui me paraît inextricable. »« Et le moindre petit pas en avant peut avoir son importance. Nous vous écoutons. »« Eh bien, » fit Raoul d'Averny, « la cause qui a précipité Elisabeth Gavrel dans l'eau lorsqu'elle fut assaillie est, sans contestation, n'est-ce pas, l'effondrement des marches en bois. » Je les ai examinées, ces marches démolies. Elles étaient soutenues par deux pieux assez forts enfoncés dans l'étang. Or, ces pieux ont cédé sous la poussée pour la bonne raison que tous deux avaient été sciés récemment aux trois quarts. Un faible gémissement accueillit ces paroles. Rolande avait quitté le studio en s'appuyant au bras de Félicien Charles. Debout, toute chancelante, elle écoutait les paroles de M. d'Averny. « Est-ce possible ? » balbutia-t-elle. L'inspecteur Gousseau s'était élancé jusqu'aux marches. Il ramassa l'un des pieux que M. d'Averny avait remonté sur la berge et le rapporta en disant « Aucune erreur. La coupure est très nette et toute fraîche. » Rolande observa. « Depuis une semaine, ma sœur allait chaque jour à la même heure chercher la barque. Celui qui l'a tuée le savait donc et il aura donc tout préparé. » Raoul hocha la tête. « Je ne crois pas que les choses se soient passées de la sorte, mademoiselle. » L'assassin n'avait pas besoin de l'acheter à l'eau pour lui arracher son collier. Une attaque brusque, une lutte de 2 ou 3 secondes sur la berge, et la fuite, cela suffisait. Le juge d'instruction prononça, fort intéressé. « Alors, selon vous, ce serait une autre personne qui aurait tendu ce piège affreux ?»« Je le crois. »« Qui et pourquoi ce piège ?»« Je l'ignore. » Monsieur Rousselin ne put s'empêcher de sourire légèrement. L'affaire se complique. Il y aurait 2 assassins. L'un d'intention, l'autre de fait, et qui n'aurait en somme, celui-ci, que profiter d'une occasion. Mais ce dernier, par où est-il entré dans la propriété, et où se cachait-il? Là, dit Raoul, en désignant du doigt l'orangerie de l'oncle Philippe Gavrel. Dans cette maison? Inadmissible. Regardez, toutes les fenêtres et portes du rez-de-chaussée sont closes et munies de volets hermétiques. Raoul répondit nonchalamment. « Toutes sont munies de volets hermétiques, mais toutes ne sont pas closes. »« Allons donc. L'une d'elles, la porte-fenêtre qui est placée la plus à droite, n'est pas close. Les 2 battants ont été ouverts de l'intérieur forcément et ont été attirés l'un contre l'autre. »« Allez-y voir, monsieur l'inspecteur. »« Mais comment l'individu serait-il entré dans la maison ?» demanda monsieur Rousselin. « Sans doute par la porte de la façade principale qui donne sur l'avenue extérieure. » Il aurait donc de fausses clés, sans doute. Et il aurait choisi cet endroit pour surveiller mademoiselle Gavrel et pour l'attaquer. C'est bien extraordinaire. J'ai mon idée à ce propos, monsieur le juge d'instruction. Mais attendons que monsieur Gavrel soit là. Prévenu hier par un télégramme de mademoiselle Rolande, il doit arriver de Cannes où il était en villégiature auprès de son fils. On l'attend d'un moment à l'autre, n'est-ce pas, mademoiselle? Il devrait déjà être arrivé, affirma Rolande. Un long silence suivit. L'autorité de M. d'Avernis s'imposait à tous ceux qui l'avaient écouté. Tout ce qu'il disait semblait vraisemblable, au point qu'on l'admettait comme véridique malgré les contradictions et les impossibilités. L'inspecteur Gousseau, planté devant l'orangerie, observait la porte-fenêtre qui, en effet, n'était pas close. Les magistrats s'entretinrent à voix basse. Rolande pleurait doucement. Félicien la regardait ou regardait M. d'Avernis. À la fin, celui-ci reprit. « Vous avez dit, monsieur le juge d'instruction, que l'affaire est compliquée. Elle l'est, en effet, hors de toute proportion. Et c'est dans de semblables cas que je me méfie de ce que je vois et de ce que je saisis, et que je suis enclin à simplifier, pour ce motif que la réalité se ramène le plus souvent à une certaine unité de ligne. Il n'y a pas dans la vie un tel embrouillamini d'événements simultanés. Cela n'existe point. Jamais le destin ne s'amuse à accumuler de la sorte les coups de théâtre. En 12 heures, un guet-apens, une noyade, un étranglement, un vol, une mort, puis 2 autres guet-apens qui auraient dû aboutir à 2 autres morts. Tout cela incohérent, bête, absurde, inhumain. Non, en vérité, c'est trop. C'est pourquoi je me demande s'il n'y a pas, dans cet enchevêtrement, une ligne qui sépare les faits, qui met les uns à droite, les autres à gauche. Bref, s'il n'y aurait pas, au lieu d'une seule affaire, trop touffue, 2 affaires normales, qui, en un point quelconque de leur développement, ont pris contact par hasard. Au cas où il en serait ainsi, il suffirait de trouver le point de contact à partir duquel il y eut emmêlement des 2 fils, et l'on commencerait à s'y reconnaître un peu. « Oh oh !» fit M. Rousselin en souriant. « Nous entrons dans le domaine de la fantaisie. Avez-vous une preuve quelconque sur quoi vous appuyez ?»« Aucune, » dit Raoul d'Avernis, « mais les preuves sont quelquefois moins probantes que la logique. » Il se tut. Chacun réfléchissait. On entendit le bruit d'une automobile qui s'arrêta derrière les clématites. Rolande s'élança au-devant de son oncle Gavrel. Ils montèrent ensemble dans la chambre funèbre, puis M. Gavrel rejoignit les magistrats. On le mit au courant en quelques mots. Raoul d'Avernis lui montra la porte ouverte de sa villa et dit « Il est probable, monsieur, que quelqu'un s'est introduit chez vous. » M. Gavrel pâlit. « Quelqu'un ? Mais dans quelle intention ? Pour voler. Aviez-vous laissé des objets précieux, des valeurs ?» L'oncle de Rolande chancela. « Des objets ? Des valeurs ? Mais non. Et puis, comment l'aurait-on su ? Non, non, je ne puis croire. » Soudain, il se mit à courir comme un fou vers l'orangerie en criant « Non, ne venez pas, que personne ne vienne !» Il alla droit vers le rez-de-chaussée de l'orangerie, poussa la porte entrebâillée et disparut. 2 minutes s'écoulèrent. On perçut des exclamations. Quelques secondes encore, il surgit, battit les bras et s'écroula sur la marge du seuil où tout le monde l'attendait. Il bredouilla. « Oui, c'est cela. On m'a volé. On a découvert la cachette. C'est épouvantable. Je suis ruiné. On a découvert la cachette. Est-ce croyable ? On a tout pris. » « Un vol important ? » demanda le juge d'instruction. « À combien, estimez-vous ? » M. Gavrel se dressa. Il était livide et comme effaré de sa confidence. « Important, oui, mais ça ne regarde que moi. La justice ne doit s'occuper que d'une chose, j'étais volé. Qu'on retrouve le voleur, qu'on me rende ce qui m'a été dérobé. » Raoul d'Avernis et l'inspecteur Gousseau entrèrent. Ayant gagné le vestibule, ils constatèrent que la serrure de la porte principale, donnant sur l'avenue, avait été fracturée comme le prévoyait d'Avernis, et que la porte ne tenait fermée que par le verrou de sûreté poussé à l'intérieur. Ils retournèrent dans le jardin, et Raoul demanda à la jeune fille « Vous m'avez raconté, mademoiselle, que quand vous avez enjambé la fenêtre de votre studio hier, vous avez aperçu le meurtrier de votre sœur qui, dans sa fuite, ramassait quelque chose. » « Oui, en effet. Comment était cette chose ?»« J'ai à peine vu. Un paquet ?»« Oui, je crois, un paquet de petite dimension qu'il a caché sous sa veste en courant. » « Qu'était devenu ce paquet ?» Le domestique, Édouard, qu'on fit venir, et qu'on ne pouvait soupçonner, affirma qu'on n'avait rien découvert sur le cadavre. Tous ceux qui furent questionnés, policiers ou quidam, déclarèrent que ni la veille, ni depuis le matin, ils n'avaient ramassé le moindre paquet. Philippe Gavrel reprenait espoir. « On le retrouvera, dit-il. Je suis persuadé que la police le retrouvera. » pour qu'on retrouve ce paquet, riposta M. Rousselin. Encore faudra-t-il qu'on en ait le signalement. Un petit sac de toile grise. Qui y contenait?
Cela ne regarde que moi, c'est mon affaire.
Que j'ai jugé bon de mettre à l'abri des billets ou des documents, c'est mon affaire. Enfin, était-ce des billets de banque?
Non, non, je n'ai pas dit cela,
fit M. Gavrel, de plus en plus irrité.
Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des billets? Non, des lettres. Des documents inestimables pour moi.
Bref, un petit sac de toile grise, voilà ce que je réclame. La justice n'a qu'à chercher un petit sac de toile grise.
Quoi qu'il en soit, dit Raoul après un long silence, la preuve est faite. Au cours de l'avant-dernière nuit, un cambrioleur, le vieux Barthélemy, s'est introduit dans cette maison. À force de recherche, il a fait main basse sur le sac. Comment repartir? Par le vestibule et la porte de l'avenue extérieure? Non, en plein jour, il risquerait d'être surpris. Alors il ouvre cette porte-fenêtre, pensant bien que dans le jardin d'une maison inhabitée, il n'y aura personne, et qu'il pourra utiliser l'issue du potager. Or, c'est le moment précis où Elisabeth Gavrel arrive des clématites. La rencontre est inopinée. La jeune fille pousse un cri, qui fut vaguement entendu des clématites. Que se produit-il alors? Le cambrioleur se précipite vers elle. Elle veut s'enfuir. Le choc a lieu sur les marches. Nous savons le reste. De nouveau, l'inspecteur Goussot leva les épaules. Fort possible, mais je n'étais pas là.
Moi non plus.
Par conséquent, rien ne démontre que les choses se soient passées de la sorte. C'est-à-dire que le sieur Barthélemy n'ait pas lui-même préparé l'attentat dont Mademoiselle Gavrel a été la victime.
Rien ne le démontre, en effet, avoua Raoul.
Cependant, il se faisait tard. Le substitut était obligé de rentrer à Paris, et l'estomac de M. Rousselin commençait à le tourmenter. Il consulta tout bas le domestique. N'y avait-il pas, là, aux environs, quelques bons restaurants?
Monsieur le juge d'instruction, dit Raoul d'Averny, si vous vouliez me faire l'honneur d'accepter mon invitation, je crois qu'on ne mange pas trop mal chez moi.
Il invita aussi l'inspecteur principal, qui refuse avec humeur, désireux de ne pas interrompre son enquête. Rolande prit à part Raoul d'Averny et lui dit tout ému
« Monsieur, j'ai confiance en vous. Ma sœur sera vengée, n'est-ce pas? Je l'aimais tant. »
Il affirma
« Votre sœur sera vengée.
Mais j'ai l'impression que c'est vous surtout qui pouvez... »
Il la regarda bien droit dans les yeux et répéta
« Comprenez bien, mademoiselle. C'est vous surtout qui pouvez m'aider. Il y a un problème terrible à résoudre. » Et sur lequel nous n'avons réellement aucune clarté. Ne cessez pas un instant d'y réfléchir. Cherchez si votre sœur n'avait pas d'ennemis, s'il n'y avait rien dans sa vie qui pût provoquer la jalousie ou la haine. En ce cas, tenez-moi au courant. De mon côté, je me consacre entièrement à vous. Et nous réussirons.